La première journée qui a eu lieu de l'année à partir du moment du colloque, le colloque de l'année dernière, c'était le 13 octobre aussi, ça a été la journée d'études ici, les Moulineaux, une semaine plus tard, le 20.
Bon, je vais être assez synthétique. Hein. D'abord, pour dire que c'était une journée un petit peu particulière. Le cadre qui avait été choisi était un cadre, punk dans l'âme, puisqu'une chapelle désacralisée nous servait d'écrin pour cette journée. La deuxième caractéristique de la journée en ce qui concerne le lieu, c'est que on avait co-organisé ça avec Marino Crespino, donc du réacteur. Hein. Troisième point, c'est que de manière très particulière, très sérieuse, l'ouverture officielle de la journée a été faite par un politique. C'est assez rare pour le souligner, donc c'était M. Santini, maire d'ici les Moulineaux, qui était venu ouvrir la journée. Et il l'a fait de manière extrêmement sérieuse, avec beaucoup de d'attachement à cette question du punk. Il devait rester 5 minutes, finalement, il est resté toute la matinée. Et on voyait que les problématiques sur lesquelles je vais revenir, qui étaient développées, étaient des problématiques qui lui parlaient en tant que politique. Il était en train de découvrir et d'analyser un certain nombre de choses en même temps que les orateurs. Alors, la thématique qui avait été choisie, puisque on était au-delà du périph', c'était précisément les rapports entre la banlieue, on va dire au sens large du terme, et Paris intramuros. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on souhaitait interroger, c'était les rapports entre centre et périphérie. Alors, la banlieue, évidemment, aujourd'hui, on l'assimile ou on l'associe plus facilement au rap en tant que genre musical. Mais cette journée a permis de montrer que, dans l'histoire, le punk avait été quelque chose, alors le rock d'une manière générale, et le punk avait été quelque chose de très important pour la banlieue. Et un des résultats, je trouve, qui était assez déterminant sur cette journée, c'est de montrer notamment comment tout le réseau des MJC, banlieue, alors pas seulement ici les Moulineaux, hein, tout le réseau des MJC avait été décisif dans la diffusion de la musique punk, dans la circulation des acteurs de la scène punk, et montrer notamment que beaucoup de groupes ont réussi à faire des tournées comme ça de MJC de Paris sans forcément passer par le centre. Hein, donc c'était un aspect tout à fait intéressant. Deuxième aspect évidemment intéressant de la journée, comme souvent sur les journées d'études, c'est que la journée a donné lieu à des témoignages assez remarquables, et la table ronde, puisqu'on coproduisait avec le réacteur, on a profité de la présence d'un certain nombre de musiciens et d'acteurs de la scène. La table ronde regroupait notamment Gogol Premier, mais aussi Patrick Odeline, Kent, bon, tout un tas d'acteurs qui sont venus témoigner, alors là, pour élargir la thématique, de leur propre rapport en tant que musiciens à la banlieue et sur ces questions de centre et périphérie, Kent pour Lyon, etc. Donc on a eu aussi une ouverture, et ça n'a pas été qu'une journée, consacrée à Paris et les banlieues. C'était beaucoup plus largement sur ces questions centre-périphérie, comment le punk avait s'était implanté, territorialisé, et comment s'organisait cette circulation, cette dynamique entre banlieue et centre des villes intramuros. Donc voilà. Donc sur cette question de ici les Moulineaux, et je le précise parce que on va y retourner dès la semaine prochaine. Cette journée a été aussi l'occasion d'enclencher un partenariat bien spécifique avec la ville d'ici les Moulineaux, avec le réacteur et avec son directeur Marino Crespino. Donc cette année, et ça sera la semaine prochaine, il y aura une deuxième journée d'études à ici les Moulineaux, mais la thématique a changé. On en reparlera tout à l'heure, je pense que. Mais je peux le dire, c'est sur l'analyse du genre musical punk et des formes d'hybridation, où se situent les frontières du genre musical et comment le punk s'est nourri et a nourri lui-même d'autres genres musicaux. Donc voilà l'idée. C'est quelque chose sur lequel on voulait revenir et qui nous semble aussi extrêmement important pour revenir aussi sur cette musique au cœur du projet, comme l'a rappelé Aurélien tout à l'heure. Ah ben, décidément. Donc je continue pour un petit compte-rendu sur Rennes. Attends, je tire le fil du micro. Voilà. Donc Rennes, c'est une journée qui a été organisée au mois de décembre, donc ça fait presque un an. La première caractéristique de la journée, c'est que on l'avait organisée en partenariat, ce qui n'est pas rien, avec les Transmusicales de Rennes. Donc cette journée a en quelque sorte bénéficié de l'aide, du soutien organisationnel, en termes de communication, voilà, des Transmusicales. En l'occurrence, grâce à une rencontre avec notamment avec Béatrice Massé, qui est une des fondatrices de l'équipe initiale des Transmusicales de Rennes. Je rappelle qu'il est un des rares grands festivals en France d'hiver, un festival d'hiver, parce que les festivals, on connaît plutôt ceux d'été, mais on connaît moins ceux qui se déroulent en hiver. Donc, c'était une occasion un petit peu inespérée d'aller travailler sur cette scène rennaise. Alors, on a longtemps hésité, est-ce que c'était la scène punk à Rennes ou est-ce que c'était un petit peu plus cette question des frontières et de la porosité des frontières, des rivalités aussi entre les villes, était un des éléments de discussion de cette scène punk rennaise. Alors on n'a pas appelé cette journée d'études la scène punk en Bretagne, parce que ça aurait été beaucoup trop ambitieux et finalement extrêmement limitant. La Bretagne, c'est beaucoup plus que ça. C'est une terre de punk, de toute façon, la Bretagne, et on y reviendra. On y reviendra sur d'autres villes, d'autres aires géoculturelles. L'intérêt de venir à Rennes, c'était que à la fois il y a un riche vivier de groupes punk, et très tôt. Le deuxième élément qui était important et qu'on cherchait à analyser dans cette journée, c'était la proximité avec l'Angleterre. Alors, ça me permet de revenir sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est qu'on voit bien à un moment donné, et assez rapidement finalement, que entre aller faire le punk ou vivre le punk ou jouer de la musique punk à Paris quand on est breton en 76-77 et aller découvrir, écouter ce qui se passait à Londres, ben souvent les Rennais ont choisi d'aller à Londres. Et Christian, le chanteur des Nus, est revenu justement sur cette question du avec un surnom, le premier punk de Rennes, hein, de ce moment où les Rennais sont allés découvrir la scène très tôt, hein, la scène londonienne, et comment cette scène londonienne a infusé et nourri ce qui se passait en Bretagne. Après, de manière relativement classique, on a essayé de travailler sur les différentes générations punk, et de toute façon, c'est toujours aussi un travail sur finalement ce qui est un des horizons du projet, qu'est-ce que c'est le punk. Parce que, évidemment, quand on parle de Marquis de Sade, par exemple, ça questionne. Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelait à l'époque la New Wave ou est-ce qu'on est dans le punk? Ben, oui, on est aussi dans le punk parce que la plupart des gens qui ont fondé ce groupe venaient de formation punk et qu'ils ont continué à s'inscrire dans cette ligne punk, de la musique punk. Voilà, et on a découvert au fil de la journée, en gros, comme on le montre de manière plus large sur le projet, trois générations de groupes punk, avec une génération historique 77, une autre davantage inscrite dans ce qu'on pourrait appeler la scène alternative, et une scène très contemporaine d'acteurs, hein, rennais, très engagés sur des problématiques, comme on l'a déjà souligné par ailleurs, qui sont sans doute nourries par des thématiques, alors vegan, straight edge, mais pas que. Mais pas que, comme dans beaucoup de villes, finalement, la superposition des acteurs les plus anciens, puisque vous le savez, Marquis de Sade a recommencé à jouer. D'ailleurs, je précise qu'un des co-organisateurs avec nous, c'était Patrice Poche, qui est un plasticien très reconnu et qui a travaillé avec nous sur l'organisation de cette journée et qui est la personne qui a incité Marquis de Sade à remonter sur scène. Alors, pour les Rennais, parce qu'ils ont fait un carton, hein, Marquis de Sade, ils ont joué aux Libertés, c'était plein, je sais pas, la jauge, je ne sais plus, c'est 3500 ou 4000 personnes. Voilà, ça donne aussi une idée, et c'est intéressant par rapport à la ville de Rennes, à la culture musicale à Rennes, et puis par rapport au festival, c'était intéressant de voir comment un groupe de 77, en gros, pouvait mobiliser et remplir une salle aujourd'hui de 3 à 4000 personnes. Hein, et du coup, ben, ça devait être un one shot. Et puis, si j'ai bien compris, ils sont repartis sur la route. Voilà. Et puis, bon, je le dis parce que je vais être trop bavard. Il y avait aussi tout un tas de. La scène, c'est pas que les musiciens, c'est les lieux. Il y avait par exemple un représentant du Mondo Bizarro, qui est un lieu qui compte en Bretagne parmi tous les autres lieux. Cette scène qui est extrêmement riche, extrêmement dynamique. Donc, je m'arrête là. ça a été vraiment une journée extraordinaire, à la fois pleine d'enrichissement au plan scientifique, mais aussi humain. Hein, et comme pour toutes les scènes, on reviendra évidemment en Bretagne, on reviendra à Rennes pour récolter un petit peu ce qu'on a semé, c'est-à-dire les fruits de ces rencontres, de ces témoignages et puis de l'archive, puisque je le rappelle, on l'a pas dit, on n'a pas eu l'occasion de le redire, l'horizon du projet, c'est faire surgir l'archive, récolter de l'archive, la rassembler et la mettre à disposition pour travailler à écrire l'histoire de la scène punk en France et voilà, notamment de toutes ces villes et de toutes ces aires géoculturelles qui font le punk en France.
Donc la journée réussir, c'était la seule journée thématique de l'année, avec en partie celle d'ici qui est aussi une journée thématique. Donc c'était sur la question de la réussite dans le punk qui était dans les différentes significations de ce terme-là, c'est autant la gestion du succès, mais aussi les liens entre mainstream et underground, mais aussi dans un sens plus personnel, voilà, qu'est-ce que c'est la réussite dans une vie là-dessus. Donc les points forts de cette journée, c'est à mon avis que ça a mis en avant des éléments qui sont peu discutés quand on travaille sur la scène punk, même des fois tabous, et ça a pu se voir dans les réactions souvent vives du public, mais aussi des intervenants quand on a parlé de cette thématique-là. Et aussi, cette journée, ça a permis de voir justement que la réussite, ça a différents sens. Donc, un certain sens, c'est celui économique de la réussite. Et à ce moment-là, effectivement, il y a toute la question de la gestion problématique de cet aspect-là qui est souvent perçu négativement dans la scène. Et ça a été rappelé qu'il y a différentes tendances. On a notamment rappelé ces deux stratégies types, soit rentrer dans l'économie des industries culturelles pour essayer de les pervertir à l'intérieur, soit rester à la marge pour essayer de construire une réussite en dehors. Ensuite, un autre sens fort de la réussite dans le punk, c'est celui de réussir au sein de la scène, c'est-à-dire de la reconnaissance par les pairs. Et là aussi, ça a permis de mettre en avant à quel point il y a quand même des logiques de domination qui peuvent se répéter au sein de la scène d'une autre façon. Ensuite, il y a aussi la réussite qui peut signifier, il y a des présentations qui sont intéressées à ça, la persévérance, le fait d'être vraiment fidèle à ses valeurs du départ et comment on réussit à le faire tout au long de sa carrière. Et puis, aussi, il y a quand même la question du rôle de l'argent, qui est aussi quelque chose qui est assez peu discuté quand on travaille sur le punk. Comment comment on arrive à le mettre en avant, c'est pour l'instant, je pense, très peu étudié, mais aussi on a pu voir à quel point justement la capacité à être indépendant financièrement pour les musiciens punk, c'est une question qui s'est posée pour de nombreux groupes, et notamment savoir avoir un métier à côté. Et puis pour les pistes à développer, donc sur les questions justement de légitimité et de fidélité aux valeurs de la scène, il y a ces questions de l'authenticité qui est souvent revenue, qui est à mon avis une notion extrêmement importante. À ce moment-là, c'était vraiment quelque chose à développer et qu'on a développé en partie lors du séminaire à l'EHESS, où je vais revenir après. Et pour faire encore de la pub pour la journée de samedi prochain, c'est aussi une des notions qu'on va travailler samedi prochain à Issy-les-Moulineaux. Aussi, voilà la question de, si on veut parler de carrière punk, comme ça nécessiterait aussi justement une connaissance plus précise du fonctionnement économique de la scène, qui à mon avis manque encore aujourd'hui, donc c'est aussi une piste à développer. Ensuite, aussi, toujours ce point de vue-là, aussi une analyse sociologique de la scène punk en France, d'où viennent les gens, quel milieu économique, quelles sont les formations, quelles sont les professions à côté. Ce serait, à mon avis, des éléments extrêmement intéressants pour aller plus loin là-dessus. Et puis, est-ce que j'ai à peu près fini ? Voilà, aussi, moi, je pense d'avoir fait une journée comme ça sur un terme un peu tabou, qui dérange un peu quand on travaille sur le punk, c'est, à mon avis, important, parce que ça permet aussi de s'intéresser à des punks qui ne sont pas forcément les punks que peut-être les gens qui composent ce collectif de recherche reconnaissent comme leur punk, mais qui est quand même un punk qui existe, qui interagit, qui peut servir de repoussoir. Et donc, à mon avis, ce serait aussi très intéressant de prolonger cette réflexion sur qu'est-ce que c'est le punk commercial, cette récupération du punk, en quoi ils sont distincts et comment ils fonctionnent, quand on sait notamment qu'il y a des tubes punk qui se font à ce moment-là.
Et en plus, pour ceux qui y étaient, il y a quand même eu une performance de yoga mémorable de Gogol premier. Pierre a eu beaucoup de mal à modérer.
J'ai peut-être un peu enfoui dans ma mémoire.
Voilà.
Donc nous, avec Estelle, on va présenter la journée d'études qui a eu lieu à Rouen. Rouen s'inscrit dans des recherches sur la Normandie que je mène avec Estelle, qu'on avait fait une première journée d'études à Caen. Forcément, Rouen apparaît aussi dans l'imaginaire punk hein, comme une ville de référence. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de montrer comment dans cette ville, eh bien, la culture punk s'est développée, notamment à travers deux groupes phares de la première génération, hein, qui sont les Olivenstein et les Dogs. Mais l'objectif, c'était aussi d'aller plus loin que ce mythe un petit peu autour de cette première génération pour montrer comment, au cours des décennies, cette culture, eh bien, elle s'est diffusée dans des lieux, à travers des groupes, à travers des associations, et comment, aujourd'hui, elle est toujours présente, notamment comme l'association Que Pontime, qui organise tous les ans la Fiesta Punk à la MJC à Saint-Sever. Donc voilà, donc le but c'était aller au-delà un petit peu aussi des clichés sur Rouen et sur la question des Olivenstein. Donc le but premier était d'abord de présenter un peu rapidement, et c'est une de mes hypothèses, de démontrer s'il y a une spécificité normande hein, par rapport aux autres régions. Une de mes hypothèses, c'est de dire qu'il y en a une, et notamment une des spécificités, c'est la proximité avec l'Angleterre, puisque tous les punks normands ont fait au moins un voyage dans leur vie en Angleterre. Donc les facteurs qui ont pu développer cette culture punk, donc Luc en parlait, la présence des MJC, la présence des radios, la présence de magasins de disques comme Mélodie Massacre, les concerts. Donc voilà, le but était de développer un petit peu toutes ces problématiques. Alors, la journée s'est déroulée en plusieurs jours, puisque vendredi, les journées ont commencé par la reformation de deux anciens groupes punk des années 90, qui, pour l'occasion, se sont reformés dans le cadre de la journée d'études. Donc les deux groupes s'appellent Hiplon et Buds, donc des groupes des années 90. Et donc il y a eu un concert le vendredi soir.
Attends, ce qu'on peut compléter là, c'est à mon avis une des choses intéressantes du projet, c'est quand on a, Christophe et moi, commencé à travailler pour organiser le travail sur la journée d'études à Rouen, en prenant contact avec tous les gens, les acteurs de la scène punk à Rouen depuis les années, depuis 76, ça a motivé justement, c'est ça qui est intéressant, sans la journée d'études, ils ne se seraient pas reformés, Buds, ni Plomb. Ils n'avaient pas joué ensemble depuis 25 ans, et c'est parce qu'on les a sollicités, qu'on a dit, on va travailler sur l'histoire de la scène punk à Rouen, qu'ils ont eu, l'idée et l'énergie, et ils se sont reformés et ont fait leur premier concert depuis 25 ans, la veille de pour ouvrir notre journée d'études. Donc il y a eu tout un collectif qui s'est mobilisé pour organiser cet événement qui était assez marquant pour Rouen. Et juste pour montrer que ce projet peut aussi motiver une certaine énergie punk, c'est qu'ils continuent maintenant à jouer. Ils ont fait leur deuxième date depuis 25 ans la semaine dernière, et qu'ils ont trois dates à venir. Et que c'est un peu... ils nous remercient à chaque fois de les avoir fait ressurgir et faire remonter leur histoire. Donc c'était juste pour compléter ça, et c'était assez intéressant de voir la motivation, finalement, comme vous disiez en ouverture, de donner au punk un passé. Ça aussi légitime, ça donne la légitimité à certaines personnes qui pensaient qu'ils n'avaient pas existé ou que c'était complètement anecdotique, et de voir qu'on s'occupait d'eux, qu'on s'y intéressait, était assez intéressant.
Donc au cours de la journée, on a eu plusieurs interventions. Donc il y a Flavien qui a présenté un peu cette question littéraire du punk hein, à travers l'étude des textes de pas seulement les groupes rouennais, mais différents groupes normands. Hein. Donc voilà, les Nouveaux Riches, Onyx, Laxatif 126, Bye Bye Turbin, des groupes de Caen et des groupes de Rouen. Ensuite, on a eu une table ronde avec les acteurs de la première et deuxième génération, et notamment pour montrer un petit peu comment, quels étaient les réseaux hein, qui se sont mis en place du côté rouennais. Et on voit ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en gros, c'est tout le monde a joué avec tout le monde à un moment donné, que ce soit dans les Dogs ou dans d'autres formations. Donc on avait une table ronde avec les premiers et les deuxièmes générations, de la Christian Rosset qui a joué dans les Dogs, les Flics du Pélo Soul, avec aussi Bruno Lefebvre. Il y avait aussi Philippe Inmer qui a joué dans un groupe de la deuxième génération qui s'appelait les Vermines. Et derrière ça, il y avait aussi la question qui a été soulevée. Rouen, vous connaissez, donc il y a rive droite, rive gauche. Et donc il y avait aussi la première génération punk est plutôt celle de la rive droite, donc c'est-à-dire celle des quartiers du centre-ville, de la gare, des beaux quartiers. Et la deuxième génération, donc qui est portée notamment par Philippine Mère et les Vermines, était plutôt celle de la rive gauche, donc celle des usines, des quartiers populaires. Et donc il y a eu une confrontation à un moment donné entre les prolos qui arrivaient et qui voulaient bousculer un petit peu les beaux quartiers, donc les Dogs, les Audi Benstein, etc. Donc il y a eu à un moment donné un peu de confrontation et de conflit entre les deux rives. Bon, aujourd'hui, ça se passe bien, puisque certains ont joué entre eux. Il y avait cette question aussi géographique qui était importante à montrer.
Et là aussi, au niveau de la méthode pour le projet, ce qui était intéressant, c'est de... Donc là, vous voyez, par exemple, Christian et Bruno, donc avant, maintenant et avant, donc, qui ont, eux aussi, été motivés pour nous donner, par exemple, tout un tas d'archives et qui collectent pour nous et qui attendent donc qu'on vienne scanner, photographier, archiver leurs documents. Les espèces d'arbres généalogiques que vous voyez là, c'est Christian ou Bruno ou Vincent Denis qui joue toujours de la guitare avec les Olivenstein qui nous les ont, qui les avaient donnés. Donc on voit, ils ont des documents qu'ils ont fait eux-mêmes depuis des années et qui travaillent des centaines de photos, de listes, de tout ça qui sont à notre disposition. Donc évidemment, il faut qu'on y aille. C'est pas eux qui, on va pas les emmener parce que ça reste des documents auxquels ils sont attachés. Mais ça aussi, ça a motivé et surtout, comme dit Christophe, ce dialogue entre rive droite et rive gauche qui n'est pas évident pour eux, pour les acteurs encore aujourd'hui, et ce genre de journée a motivé leur relation et permis de travailler sur cette histoire géographique. Et comme tu disais tout à l'heure, centre-périphérie, c'est un petit peu la même chose pour la banlieue à Rouen, la rive droite et la rive gauche.
Donc il y a eu différentes communications. Bien évidemment, il y a une communication sur le groupe phare rouennais, les Dogs, qui montrait un petit peu cette question entre l'héritage 60s du groupe, ses références, et aussi cette énergie punk, puisque le groupe s'inscrit dans cet environnement punk, 76, 77, 78, donc voilà, de Philippe Gonin. Ensuite, il y a une table ronde autour des lieux, puisque Rouen, comme vous le savez peut-être, a été le premier lieu où les Clash sont venus jouer en France, donc le 24 avril 1977. Donc c'est leur première tournée française. Donc ils viennent à Rouen, puis ensuite c'est Paris. Et donc Rouen a été aussi une porte d'entrée de différents groupes, comme le Havre. Et donc avec un lieu qui était les Chartreux, qui est devenu le Studio 44, puis l'Exo 7. Donc avec un certain nombre de groupes qui sont venus... les Jams, les Dames, les Cramps, etc. Enfin, un certain nombre de groupes internationaux et les groupes, bien évidemment, nationaux. Ensuite, il y avait l'intervention de Nathalie qui a créé le premier fanzine des Cramps et qui aussi les a fait venir à Rouen pour une dédicace au magasin Mélodie Massacre. Donc, il nous a raconté un petit peu les péripéties. Déambulatoire avec les Cramps dans Rouen.
Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Jacques Huppin, qui était le programmateur de cette salle des Chartreux à l'Exo 7, et un monsieur qui a maintenant 72 ans, et qui a lui aussi été, quand je l'ai appelé, en lui disant on voudrait travailler un petit peu sur l'histoire de comment tu faisais, comment tu avais fait pour programmer, pourquoi tu programmais les Clash en 77, comment ça s'est fait, etc. Il m'a dit, oh ma cocotte, si j'avais su que ça t'intéressait, j'aurais pas jeté toutes mes archives, toutes les affiches, tous les courriers qu'il avait avec les managers, avec tout le monde à l'époque. Et puis nous raconter, c'était intéressant. Donc maintenant, on va pouvoir aussi... Il a fait un livre sur son bouquin, sur sa salle, qui s'appelle Combat Rock, l'histoire de l'Exo 7. Mais néanmoins, là aussi, donc maintenant, on sait qu'il va conserver un petit peu ce qui lui reste d'archives et de correspondances sur la programmation. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir aussi, donc ça rejoint le premier propos de Christophe pour présenter la Normandie, c'est que le nombre de premières dates en France de groupes vraiment connus, et en tout cas comme les Cramps, les Clash,
Stranglers.
Jam Stranglers. Les premières dates en France, c'est Rouen. Donc ça a quand même aussi un précédent qui peut être intéressant à étudier. Et là, on voit, donc c'est Mélodie Massacre, c'est le magasin qui était tenu par Eric Tandy, qui écrivait les chansons des Olivenstein, avec l'arrivée des Cramps à Rouen. Et Nathalie Denis, qui a eu la gentillesse de venir, qui était aussi par ailleurs la femme de Dominique Laboubé, qui chantait dans les Dogs. Nathalie a créé le premier fan club des Cramps en France et a initié, et encore aujourd'hui, elle est comme un pilier pour tous les fan clubs des Cramps dans le monde. Elle reste, elle a des archives, des correspondances avec. Donc là, il y a encore des correspondances avec Brian Gregory et tout un tas de trucs assez intéressants qui sont chez elle, dans des cartons. Elle m'a dit, alors je vais faire un effort, je vais les scanner, tout ça. Donc ça revient vraiment, et je trouve que pour revenir sur la base de données et sur la constitution d'un fonds intéressant à étudier, il faut continuer d'aller en région pour ça, parce que ces photos, tout un tas de choses comme ça, on ne les aurait pas sans la participation des acteurs sur le terrain.
Donc pour finir, donc là il y a une troisième table ronde autour de la scène, notamment au squat chez Émile, et la scène actuelle qui regroupait un certain nombre d'acteurs du squat. Donc avec
le squat, le squat chez Émile, pour le présenter pour les gens qui connaissent pas du tout, c'était dans les années 90, c'est ouvert à Rouen un squat qui était au départ une salle de concert chez Émile, qui était rive gauche, et il y a plus de 300 concerts qui se sont déroulés là. C'était vraiment la scène plutôt hardcore années 90. Et en fait, très vite, ce lieu est devenu un lieu d'habitation et de production, de fanzines, de disques aussi. Et donc, les concerts ont été enregistrés, etc. Et il y a aujourd'hui une vie. Enfin, le squat a été fermé en 2000. Et la manière dont cette culture-là s'est disséminée à la fois en campagne, donc ça rejoint aussi une des journées d'études de l'année dernière qui s'appelait Punk des villes, Punk des champs, ou il y a 2 ans peut-être déjà, qui permet de voir aussi comment à la fin des squats dans les années 2000, pour certaines villes comme Rouen, cette fermeture et ce mode de vie urbain a été complètement relayé par des prises de position en campagne avec l'ouverture, non pas de squat, mais l'investissement de communautés en campagne avec des punks dits ruraux, le fameux punk rural. À Rouen, il y a plusieurs types qui s'appellent le rural, c'est leur nom. Il y a le rural qui revient, il y a les ruraux quand ils ont fondé une famille. Et nous avons aussi continué la journée par un apéro qui a été aussi proposé et organisé par les mêmes personnes qui se sont occupées du premier concert le vendredi soir, notamment Thibaut de Hiplon, avec un endroit qui est un endroit un peu alternatif à Rouen qui s'appelle la Conjuration des Fourneaux, qui nous avait accueillis pour déjeuner également, qui fait librairie, salle de concert et puis bar, où ils ont proposé donc d'installer du matériel et de jouer tous ensemble. Donc on a eu d'abord un concert d'Arnaud Futur avec quelques titres, je ne sais plus, vous aviez fait 5-6 titres assez rapidement, c'était assez chouette. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est que là, il y avait des amplis, une batterie, et que plusieurs personnes ont joué, dont des standards, des reprises standards du punk ou d'autres morceaux, mais c'était transgénérationnel au sens où intergénérationnel, parce qu'il y avait les enfants des vieux punks de 55 ans, et donc des gamins qui avaient entre 20 et 25 ans, qui ont joué avec leurs parents des titres. Donc ça existe beaucoup à Rouen. Il y a beaucoup de groupes. Donc ça, ce serait aussi un truc à travailler, une piste sur le punk en famille. Il y a beaucoup de groupes, et j'imagine que ça doit être pareil dans plein de régions, avec les enfants des punks de 77. Et puis ensuite, nous sommes allés à la Fiesta Que Pontim, qui est donc le relais, avec le Trois Pièces, qui est un bar à Rouen, qui est aujourd'hui une scène très très active à Rouen, avec une association, donc où on ira au mois de mars de nouveau avec Christophe, très active sur la scène punk Rouen, et un peu plus largement jusqu'à Caen, et un peu Le Havre aussi, joue un petit peu avec les gens dans ce réseau-là. Voilà pour la journée rouennaise.
Donc avec Audrey, on a organisé la journée au Val d'Ajol. C'était pas la première fois que Pin se délocalisait. Il y avait eu une journée punk des champs. Mais par contre, là, c'était plutôt punk en forêt. hein, on peut le qualifier comme
Pung
ça.
Pung des sapins.
Pung des sapins, peut-être. Alors, on avait eu droit à une communication très intéressante d'Audrey, elle va rougir, sur Narcisse, justement, cette salle mythique. Et du coup, ça a été son idée d'organiser non seulement une journée délocalisée, effectivement, au fin fond des Vosges, mais en plus dans cette salle mythique qui accueille donc des concerts punk depuis des années. Plusieurs points forts. Alors, on s'est inspiré aussi de ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'on a essayé de clôturer la journée par un concert, donc Arnaud Futur et Luc, effectivement, les classiques. Et puis le lendemain, tout le monde n'a pas pu rester, mais Audrey qui était. Le lendemain, il y avait aussi un concert chez Narcisse. Pour les autres sources d'inspiration, c'était de faire plusieurs tables rondes. On a pensé qu'on avait beaucoup d'acteurs, c'était une bonne idée de faire des tables rondes pas trop conséquentes. Ça frustre moins quand il y a peu de monde, hein, parce que les gens ont le droit de s'exprimer, enfin ont le droit, on a la place de s'exprimer davantage et plus en profondeur. Et pour nous qui assistons au débat, eh bien, on pensait que c'était une bonne idée. Et de ne pas terminer par une table ronde, parce que ça laisse le temps. Bon, en même temps, au Val d'Ajol, on était un peu prisonniers, on ne pouvait pas s'éclipser tout de suite. Mais on n'est pas obligé de courir après son train et on peut assister aux débats finaux. Alors, je laisserai la parole à Audrey, mais globalement, ça nous a permis aussi de montrer qu'il y a une scène vosgienne, c'était l'objet d'une table ronde, et qu'il y a des réseaux et des filiations. Et que grâce à des lieux, grâce à un militantisme, je dirais, hein, de certains qui s'engagent dans les radios, les concerts, les assos, parfois sur leur propre denier, eh bien, cette scène punk en Lorraine, elle est vivace. Et enfin, dernier point, on était plutôt... Une petite déception de ma part, parce qu'on avait réussi à réintégrer Fabien Hein au projet, mais au final, il n'a pas persévéré. Mais c'était bien qu'il soit là quand même pour susciter quelques questions, quelques débats, même si on n'a pas réussi à le raccrocher.
Merci Laurent, je pense que tu as dit l'essentiel, peut-être juste pour reposer le cadre. Chez Narcisse, c'est une salle de concert, mais c'est avant tout un débit de boisson. C'est une histoire de famille depuis plus de 120 ans, donc c'est un lieu qui a du sens. Donc on parlait du passé punk tout à l'heure, c'est effectivement un lieu de mémoire et un lieu qui est tourné vers l'avenir, parce que justement donc Victor, le gérant actuel, vient de reprendre l'entreprise donc depuis quelques années. Et l'idée, c'est vraiment de faire vivre cette scène villageoise, cette scène rurale. Et alors la question, c'était, mais comment ça se fait que ça marche chez Narcisse, hein, parce qu'il faut savoir que le Val d'Ajol, c'est 2000 habitants, c'est perdu dans les montagnes vosgiennes, et pourtant ça fonctionne. Donc on n'a pas forcément la réponse à cette question, mais voilà, les interventions, donc on a eu 7 interventions, ont abordé cette question du punk donc sur la scène lorraine, vosgienne, messine et nancéenne, et on a voulu donc compléter par effectivement, comme l'a dit Laurent, par 2 tables rondes, parce qu'on a pensé que c'était important de donner la parole et de faire dialoguer scène vosgienne, scène messine nancéenne. Et simplement pour terminer, on a quand même eu un accueil très chaleureux. C'était une belle expérience humaine et scientifique. Et ceux qui étaient présents ont effectivement pu découvrir le patrimoine ajolais avec l'andouille, notamment. Et voilà.
Et pour conclure, on va aussi récupérer effectivement les riches archives, y compris iconographiques, de chez Narcisse. Donc ça, c'est un gros plus.
Et je tiens à dire que c'était une journée exceptionnelle. Alors, elles sont toutes vraiment bien, mais là, il y avait quelque chose dans le lieu qui était absolument exceptionnel. Quand les types du village, les vieux du village viennent parler avec les musiciens de Punish Yourself à 18h, enfin, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement touchant dans cette histoire familiale qui dure depuis très très longtemps. Vraiment, c'était une très 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 belle journée. Dans l'ordre chronologique, on a eu une journée d'études en juin, qui s'inscrivait dans un séminaire que nous avons animé avec Eric Wittersheim l'année dernière. Et donc, dans l'ordre chronologique, je crois que c'était le 22 juin ou le 23 juin, on a fait une journée d'études ici sur des aspects méthodologiques. Pierre, je te laisse raconter.
Ouais, donc pour présenter un peu tout le projet du séminaire, donc vraiment c'était une des nouveautés de 2018 qui était l'idée vraiment de proposer un temps vraiment de réflexion, tant théorique que méthodologique, sur l'approche académique du punk, qui était destinée donc aux étudiants, mais aussi aux membres de l'équipe, parce que c'était une demande qui a été exprimée par plusieurs de nous. Et puis, voilà, donc l'objectif vraiment, c'était de ce séminaire, c'était de réfléchir comment le chercheur il définit ses angles d'attaque, son analyse d'un objet comme celui-ci, et aussi à quel point cet objet de recherche il impose une certaine méthode différente, la mise en place d'outils inédits. Donc, tout d'abord, quand même préciser que ce séminaire tel qu'il s'est développé à l'EHESS, c'était vraiment un gros succès avec entre 30 et 50 étudiants à chaque fois, une salle, une toute petite salle, toujours extrêmement pleine. Donc, ce qui montre à la fois à quel point ce type de thématique, ça suscite vraiment un intérêt fort chez les étudiants, mais aussi à quel point c'est encore peu reconnu par l'institution, disons. Et puis aussi, donc voilà, on a fait 4 séances avec chaque fois 2 intervenants. Donc les thématiques, pour juste les énoncer rapidement, il y avait recherche et terrain sensible. La deuxième séance, c'était engagement comme expérience. Ensuite, c'était nostalgie et authenticité. Et puis la dernière, c'était dire ou ne pas dire, recherche, censure et autocensure. Et donc, à la fin, on a fini justement par une grande journée méthodologique où il y a plusieurs intervenants de l'équipe qui sont revenus. Donc, le but, là, c'était vraiment de croiser les différentes approches littéraires, anthropologiques, sociologiques. Et voilà, c'était un moment, à mon avis, fort où tous les membres de l'équipe ont pu vraiment mettre en avant leur façon d'aborder le punk comme objet. Et puis, donc, pour la suite aussi, peut-être qu'on va revenir un peu là-dessus, mais vraiment, vu que c'était un contenu vraiment fort de production... ça va donner lieu à une publication, peut-être que Luc et Solveig préciseront après. Et puis, donc voilà, juste dire que malheureusement, le séminaire ne va pas être conduit en 2019.
On va en reparler. Vas-y, Estelle, tu peux.
Donc, le séminaire à l'École des hautes études, qui était un séminaire de recherche et qui était ouvert aux étudiants de l'école, mais bon, un master essentiellement. Donc, il y a eu effectivement énormément de succès, puisqu'on avait plus de entre 40 et 50 étudiants par séance, et une programmation, et en plus de belles affiches de Kiki Picasso, qu'on remercie toujours de son travail efficace et radical, comme on l'aime. Merci Kiki. Le séminaire ne sera pas reconduit, Eric Wittersheim ne faisant plus partie de l'équipe et ayant d'autres terrains au Vanuatu à explorer. Donc, nous organiserons pour 2018-2019, non pas un séminaire avec une programmation fixe, mais des journées d'études méthodologiques pour continuer à faire ce travail de méthodologie qui sera effectivement ouvert aussi à tout le monde, puisque comme toute journée d'études, avec le soutien de l'École des hautes études, en tout cas, on pourra continuer ce travail. Donc, on n'a pas encore fait le programme de ces journées d'études, mais ce sera axé essentiellement sur méthodologie de recherche, sur cet objet, construction de l'objet, construction de toutes les approches qui sont abordées dans ce qui s'appelait Underground, écrire l'histoire du punk. On peut continuer avec ce titre ou bien revenir à des préoccupations plus contemporaines de l'avancée du projet. Donc, plus de séminaires, mais des journées d'études pour 2018-2019.
Merci Estelle. Philippe Gonin.
Bon, ben bonjour tout le monde. Donc, Lyon, ça s'est passé au mois de juin de cette année. 3 organisateurs, Philippe Lyotard, qui n'est pas là, Laurence, qui discute dans l'entrée, et où elle est revenue. Ah, ben oui, elle est là, mais elle est au fond. Et moi, donc. Mais moi, je suis arrivé assez tard. Ça fait un an que je suis dans Punk is Not Dead. Les travaux étaient déjà bien entamés sur cette journée lyonnaise qui s'est passée au Nouveau Théâtre du 8e à Lyon et aussi en partie au Rock and Eat. J'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Qui est une salle de concert qui se trouve à Lyon, une sorte de cave assez sympathique où on peut faire un peu de bruit. Et donc, sur cette journée-là, on a invité pas mal d'acteurs locaux avec 2 tables rondes assez intéressantes, des musiciens de l'époque. Certains sont encore en activité, d'autres moins. On a eu Denis Le Carme, auquel je tenais beaucoup parce que bon, il est très malade, mais ça a été un acteur assez important dans cette scène-là. On a eu aussi Robert Lapassade, qui donc venait, il n'était pas le seul, hein, mais il est venu sur cette journée, parce que Radio Bellevue était une radio importante sur la scène lyonnaise, pas seulement à l'époque punk, mais aussi un petit peu avant et beaucoup après. François est intervenu aussi dans cette journée. J'ai fait une intervention globale un petit peu sur une scène, mais qui était une scène plutôt post-punk lyonnaise. Et puis ensuite, je me suis intéressé un peu à Star Shooter. On a eu une excellente intervention aussi sur la prosodie vocale par Olivier Miglior, qui est par là aujourd'hui. Où, voilà. Donc Olivier, qui a fait une belle présentation de la prosodie de Kent. Alors hélas, on avait envisagé d'avoir Kent à cette époque-là, mais comme il était pas mal pris par une tournée, par un projet de bande dessinée, il a décliné l'invitation finalement. Voilà, alors je ne sais pas trop que dire. C'est vrai que c'est une journée qui s'est déroulée sur en fait une journée et demie, si on tient compte de la veille, avec le Rock and Eat. Il y a eu aussi d'autres manifestations un petit peu avant. La veille du concert, il y a eu un film qui a été projeté. Sur des scènes alternatives. Alors, au cours de la journée, il y avait Georges Ray, oui, effectivement. Et puis, il y a eu une soirée, mais qui était organisée par Philippe Lyotard, il faut en parler quand même, au Comédia, qui était la veille de ces deux journées, spécifiquement Pind. C'était à la fois du Pind et à la fois pas du Pind, cette présentation-là.
Merci, Philippe. Et maintenant, c'est Marie de la Fanzinothèque qui va venir... présenter un petit peu la journée qui s'est déroulée assez récemment à Poitiers.
Ouais, c'est la dernière en date, hein, ça fait même pas un mois. Moi, je m'assois. Juste vous rappeler un peu ce que c'est que la Fanzinothèque. C'est une asso qui conserve et collecte les fanzines depuis 89, donc ça va faire 30 ans qu'on existe. Qui a commencé assez petit avec juste un mi-temps et maintenant on est une équipe de 5 personnes, 5 salariés. Et financé par la ville de Poitiers, qui ne nous embête pas plus que ça sur nos activités. On a aussi un atelier de sérigraphie. On organise régulièrement des expositions dans art contemporain, disons, ces temps-ci. Mais voilà, juste pour vous rappeler ça. Donc, c'était important que ça se passe à Poitiers parce que on a la Fanzinothèque et donc on a un fonds d'archives considérable. On a une collection de 55 000 exemplaires du monde entier, avec vraiment au niveau des fanzines punk énormément de choses. Puisque la fanzine, en fait, s'est créée, disons, en 90, et c'était le grand moment du fanzine à punk hardcore, on va dire. Donc la journée s'est déroulée en deux temps. Il y a eu une matinée, finalement, pour l'équipe Pind, présenter la collection, nos méthodes de travail, parler numérisation. Voilà, que je pense sympathique. Enfin, moi,
oui,
c'est vrai que je connais par cœur,
souligne mais... que c'était vraiment intéressant parce que c'est finalement ces demi-journées consacrées à un outil et à un lieu, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très utile.
Voilà, on a eu un petit peu de mal, c'est vrai, pour organiser cette journée parce qu'on est tombé pendant les vacances scolaires et c'était un petit peu compliqué pour réunir des gens. Mais du coup, de faire ça en deux parties, c'est vrai que c'était pas mal. Et puis, j'ai pu sortir plein de fanzines, en mettre plein les tables, exposer beaucoup de choses parce qu'on a tellement de trucs que ça se voit pas en fin de compte. Avec ce classement, tout est serré. Et là, essayer d'extraire des fanzines de 77, on a quand même beaucoup de choses intéressantes. Ensuite, l'après-midi, c'était public. Donc, on a parlé de la scène punk à Poitiers. Alors, Poitiers et région. Hein. On a parlé des radios libres. C'est David Puot qui a essayé de retrouver un petit peu trace des radios, enfin, et des émissions punk avec une radio locale qui existe depuis 82, hein, donc, vraiment, qui avait été à l'époque prise d'assaut par les punks. Ensuite, épuration, puis retour des punks. Enfin, voilà, toute une histoire sur les radios, et puis ensuite, moi, j'ai parlé des fanzines, hein, donc essayons de retracer un peu tous les fanzines punk qu'on a eu à Poitiers. Bien sûr, quand je dis punk, c'est punk rock, c'est hardcore, c'est ska aussi bien, tout ce qui a pu faire cette scène. Donc on a quand même beaucoup de choses, puisqu'on a pu, mieux qu'ailleurs d'ailleurs, collecter tout ce qui concernait la scène de Poitiers. Et ensuite, pour faire un retour un petit peu historique sur les groupes de Poitiers, sur la scène qu'il y a eu à Poitiers depuis les années 80, je me suis basée sur les archives de l'Arsenal. D'abord, j'ai été fouillée un petit peu dans les quelques zines qu'il y avait entre 82 et 86. Il y en avait 5, donc c'était relativement facile. Et ensuite, prendre les archives de l'Arsenal. Alors, l'Arsenal sommaire Poitiers, c'est une newsletter qui a existé pendant 20 ans, entre 87 et 2007, et qui a annoncé tous les mois les concerts de toute la région. C'était un petit A5 recto verso, gratuit, avec une diffusion de 2000 exemplaires, entre 200 et 4000, selon les... Enfin, sur 20 ans, il y a eu beaucoup de péripéties. Et voilà, ce qui fait que cette newsletter, du coup, maintenant, elle n'était pas du tout conçue pour, elle était conçue pour que les gens sachent ce qui se passe dans le coin et ne ratent pas des concerts. Parce qu'il y avait vraiment, à l'époque, vraiment pas beaucoup de façons de s'informer sur ce qui pouvait se passer, sur les assos locales. Avec vraiment en privilégiant tout ce qui était alternatif, ce qu'on n'a jamais annoncé, ni Francofolie, ni Printemps de Bourges, ni ce genre de choses, qui ont déjà tout à fait les moyens de communication. Donc nous, vraiment, sur le local, sur les petites assos, sur les concerts punk. Et voilà, et on se retrouve maintenant, parce que voilà, c'était fait pour l'actualité, on se retrouve maintenant avec une masse de documents qui est assez considérable. On a 225 exemplaires, tout est numérisé, mais malgré tout, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. C'est là que Denis Mellier est intervenu, lui il appelle ça les archives précaires, et il a essayé de nous donner un petit peu des pistes méthodologiques pour pouvoir, je vais reciter ces mots hein, exactement, pour pouvoir utiliser cette archive qui est pour le coup trop, quoi. Il y a trop d'infos, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc lui, très exactement, il a proposé des méthodes pour indexer ce qu'il appelle donc les archives précaires. Il a parlé de contextualiser la newsletter en questionnant les auteurs ou des témoins directs. Ça, je n'y avais pas pensé, parce que vu que je le rédigeais, je n'avais pas pensé qu'effectivement, il fallait aller voir les auteurs. Mais tu vois, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Effectivement, parce que ça servira, c'est un cas de figure, qu'il y a beaucoup d'autres newsletters, pareil, très denses, et ils sont difficiles à exploiter. Voilà, il a parlé aussi de se fixer des objectifs limités en travaillant sur un groupe ou une salle ou une période ou même une année. Et pour ça, constituer une liste d'items, de sujets qui permettent de lancer le processus d'indexation. Puisqu'effectivement, on les a numérisés, mais ils ne sont pas indexés parce que pour l'instant, pour moi, ça revenait à le recopier en entier, quoi. C'est très compliqué. Donc lui, Denis Mellier, qui est prof à la fac de Poitiers, prof de littérature, est en train de voir avec pour trouver quelques étudiants qui s'intéresseraient à cette indexation, à ces recherches. Et on va certainement aussi bosser avec la Maison des sciences de l'homme et de la société qui nous prête déjà leur matos pour scanner. Mais là, pour essayer de trouver peut-être la recherche, comment ça s'appelle, recherche visuelle, enfin voilà, trouver des logiciels qui nous permettent d'avancer. Sachant qu'il y aura peut-être des problèmes quand c'est écrit à la main, quand il y a des jeux de mots. Mais enfin, grosso modo, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite sur ça. Parce que l'Arsenal, ça parlait de Poitiers, ça parlait de toute la scène autour de Poitiers, dans un rayon de 200 km jusqu'à Bourges, Limoges, Bordeaux, Nantes. Donc c'est assez énorme, quoi. Et sur 20 ans, voilà, ça représente un travail de fou, quoi. Mais qui serait quand même intéressant d'aborder un peu plus sérieusement. Et je pense que ça servirait de modèle aussi pour d'autres newsletters. Il y en a beaucoup d'autres qui sont pareils, des fourre-tout, quoi. Ouais. Et là, voilà, ça nous a pris une partie de la journée. La soirée, enfin, en fin d'après-midi, on avait préparé une table ronde avec, sur la thématique « C'est quoi être punk ?» hier, aujourd'hui, demain. Et en réunissant trois générations de punk de Poitiers. Donc, j'ai eu beaucoup de retours. Les groupes de Poitiers sont montrés, les groupes modernes, enfin, actuels de Poitiers sont montrés très intéressés par cette histoire. Avec donc des gens un peu plus âgés, il y avait mon frère qui est batteur des Cadavres, mais qui est avant, qui jouait sur Poitiers, donc qui était vraiment qui représentait la scène 88-92. Undolor, qui est un groupe qui existe encore, qui joue depuis 92 et qui joue toujours pour voilà une période assez longue. Et puis plein de groupes qui sont assez récents. Et voilà, et j'ai trouvé qu'il y avait une belle harmonie entre tous ces gens qui se connaissent. De toute façon, Poitiers, c'est pas bien grand. Hein. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle fibre déjà d'amitié entre ces gens-là. Il n'y a pas de chapelle à Poitiers, aussi fait du métal ou du ska. Enfin, tout le monde s'entend bien. C'est une espèce de solidarité entre les groupes. Et pour finir, je parlerai des Topsy-Turvies, puisqu'eux, en finale, ont parlé de la maison, puisqu'ils avaient ouvert un squat pour héberger des mineurs isolés dans Poitiers, qu'ils étaient en passe de se faire expulser. Et voilà, je trouvais ça chouette aussi que les punks s'investissent dans ce genre de choses. Bon, depuis, la maison a été expulsée, et ça fait un groupe attaqué sur Poitiers. Voilà. Et j'ai trouvé ça chouette que les groupes, finalement, soient... Déjà amis entre eux, et puis voilà ce qu'on se projette quand même dans la société et pense avoir un rôle dans cette société. Contre-rôle. Voilà.
Merci Marie.
Et ton intervention donne l'occasion de souligner que, bon, au fil des journées d'études délocalisées, on voit quand même se dessiner des choses plus transversales. Tu viens de souligner, de rappeler le rôle des radios aussi, par exemple. C'est quelque chose qu'on avait vu à Toulouse, évidemment, avec FMR. Et oui. Et cet aspect-là, cette dimension-là, à partir du moment où il y a des radios libres, de quelle façon ça nourrit le réseau punk. Et puis, merci aussi pour l'ouverture sur des supports. On le verra à Bordeaux aussi, cette question des newsletters et et quelque chose d'assez important. Voilà.
Maintenant, vous voyez la collection là, qui s'enrichit derrière petit à petit. Je crois qu'à ici, les Moulineaux, c'est la 23e journée. J'ai enlevé les colloques, sinon ça doit faire 25-26. Voilà, tout ça qui est quand même, on la remercie pas assez, je trouve, porté par le graphisme de Podpunk qui travaille. Alors, elles sont plein de nanas, en fait. Donc, il n'y en a pas une seule qui est en charge des visuels et elles tournent, qui sont en charge de ce projet depuis le début. Qui est une histoire d'amitié en fait avec moi, et je trouve que ça porte beaucoup beaucoup le projet. Il y a une identité visuelle extrêmement forte. Alors cette année, après tous les petits visuels noirs et hyper chargés, ils ont eu pour consigne de revenir à la sobriété, ce qu'ils ont fait pour ici les Moulineaux, vous verrez, pour la journée de la semaine prochaine. Mais on est très très contents aussi d'avoir cette aventure avec eux, et je sais qu'elles se battent à chaque fois que j'envoie un programme, c'est-à-dire une fois toutes les semaines à peu près, pour s'occuper du visuel. Donc voilà.
Et tous les visuels sont sur le site, évidemment. Je rappelle qu'il y a un site du projet.
Et toutes les captations sonores, voilà, que fait Dominique patiemment, méticuleusement derrière, en fait. Donc tous les fichiers sont sur le site internet à disposition. Moi, ma préférée de l'année, c'est quand Gilda raconte sa vie de chercheur sur les skins. Vous pouvez écouter ça, je vous avais pas le moral. Ça vous le remonte en 3 minutes.
Voilà.
Alors, on n'a même pas trop de retard, du coup, on va aller boire un café pendant 5 minutes.
On voulait quand même signaler 2-3 heureux événements sur l'année dans notre équipe.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas...
Féliciter quelques jeunes chercheurs qui sont devenus...
Il y a Tim, c'est bien l'année dernière que tu as soutenu ta thèse. Hein, parce qu'on n'arrive plus à se rappeler, donc Tim a soutenu sa thèse en novembre. Voilà, en novembre dernier, et il a été recruté dans la foulée directement maître de conf à Strasbourg. Voilà. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment un super événement.
Et ben vas-y.
Le second, c'est Christophe Pécou, alors qui a soutenu sa thèse depuis un petit peu plus longtemps, mais qui vient d'être recruté maître de conférence à Rouen. Voilà.
Voilà, et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a le petit dernier, la Manu, qui s'est engagé pour une thèse avec nous, le pauvre.
Sur la notion d'intelligence punk, donc, voilà. Qu'a évoqué Aurélien tout à l'heure et qui est parfaitement...
Effectivement, et on est très content que tu sois là avec nous. Donc on coupe 5 minutes et puis on suit le programme tranquillement, on est dans les temps.